Philosophique, c'est quelque chose de très concret. Et je voulais juste dire une petite chose pour ne pas être trop longue, c'est qu'on voit bien qu'il y a toute une série de choses sur le discours de l'action et comment agir au fond qu'on se pose. Alors vous nous dites, Cédric, qu'il faut planifier, mais toute la question
Choisir
c'est
ensemble.
ou choisir ensemble en même temps,
Choisir ensemble nos
donc faire
priorités.
beaucoup de choses en même temps. Et toute la question c'est en fait comment la pensée de l'action peut être vraiment pas seulement une pensée de l'interpellation, une pensée de l'activisme et une pensée qui englobe l'ensemble de ceux qui disent agir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un chef d'entreprise va dire j'agis, mais que le sujet c'est comment évaluer si l'action est utile. Donc on a un problème de référentiel pour arrêter de dire il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent, parce qu'on est dans le moment de l'action. Mais quand Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, nous dit c'est le moment de l'action, il faut maintenant commencer à dire en quoi consiste l'action. Elle existe beaucoup au niveau local, beaucoup moins au niveau national et pas du tout au niveau international.
Fergan Azihari, au-delà du sourire,
oui.
Ça existe en termes d'opinion publique et donc est-ce que ça a un effet politique, ce discours qui consiste à dire que le reste de la planète brûle si je peux prendre ma douche tranquillement?
Non, c'est un peu outrancier. Maintenant, moi, je me méfie quand même du discours apocalyptique, c'est-à-dire que...
J'entends. Le discours de Trump, est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce que c'est un blocage aux politiques que vous souhaitez voir mettre en œuvre?
Non, je pense que ce discours-là n'est pas pertinent sur les véritables enjeux aujourd'hui relatifs au risque climatique. Je pense qu'il y a un enjeu qui n'est pas suffisamment pris en compte, c'est celui de l'adaptation. Et là-dessus, je serais beaucoup moins sceptique sur la volonté de certains d'opposer croissance économique et sécurité environnementale. Quand on regarde aujourd'hui, historiquement, le nombre de victimes de catastrophes naturelles depuis des décennies, il ne cesse de chuter. Il chute au rythme de la croissance économique, et ça vous étonne, mais c'est le cas, parce que les sociétés, quand elles se développent, gagnent en résilience, parce qu'elles ont de meilleures infrastructures, parce qu'elles ont une meilleure connaissance en matière de gestion du risque. Et donc, cette croissance économique fait qu'aujourd'hui, les fléaux environnementaux sont beaucoup plus doux, entre guillemets, dans les pays riches, dans les pays pauvres. Un exemple. Steven Pinker, dans son ouvrage, cite le cas des tremblements de terre, typiquement. Ça n'a rien à voir avec le climat, mais c'est quand même une illustration intéressante de la résilience des sociétés humaines. Il rappelle qu'en 2010, un tremblement de terre frappe Haïti et fait 200 000 victimes. Quelques semaines plus tard, un tremblement de terre encore plus violent frappe le Chili, 500 seulement, entre guillemets, victimes. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que face aux risques, aux aléas naturels, la croissance économique est aussi une clé de la résilience des sociétés humaines et qu'à la mépriser, on risque de s'exposer à des maux encore plus insupportables.
Lucille Schmitt?
Deux choses. D'abord, ça dépend quelles sont les victimes des catastrophes naturelles. Si on y inclut les koalas, les animaux et les arbres. Non, mais moi, j'estime qu'inclure l'ensemble des êtres, y compris les êtres non-vivants, est important aujourd'hui, tout le vivant.
Et là, vous parlez de l'Australie.
Et évidemment, je peux parler d'autres animaux. Mais en ce qui concerne ce que vous dites, les assureurs, dès 2015, avaient fait un livre blanc, les assureurs français, parce que c'est une profession qui est habituée à penser à long terme, en disant que les catastrophes naturelles allaient se multiplier dans les 20 années à venir, que du coup, il y aurait un coût exponentiel. Et effectivement, ils assumaient que ça coûte... Peut-être les catastrophes sont moins graves dans les pays riches, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de morts dans les pays pauvres et ça coûte moins cher aux assureurs. Donc ça, c'est quand même une planète qui marche sur la tête.
Non,
et donc toute la question. Non, mais
évidemment,
oui, mais très bien. On peut l'expliquer de manière économique, mais c'est atroce, c'est-à-dire que c'est une injustice
terrible. Bien sûr, mais il faut de la croissance économique.
Plus de morts,
il faut du développement.
Moins cher. Donc toute la question, c'est aujourd'hui d'arrêter les catastrophes naturelles, de mieux traiter la planète et de faire en sorte effectivement de s'adapter à ce qui va se produire de toute manière. Et la France, il faut quand même le dire, est le pays qui, avec les Pays-Bas et l'Angleterre, le pays qui aura le plus à subir les catastrophes naturelles à l'avenir. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas seulement un calcul économique, c'est aussi reconnaître la valeur de l'humain et de la nature.